Mais comment tu parles ? Un sujet de Léa Coste pour Magma, réalisé par Gilles Cabot au Label 42.
C'est fou le nombre d'articles qu'on voit passer sur le langage des jeunes.
C'est vrai, c'est fou.
Certains sont ludiques, comme des petits quiz de vocabulaire. D'autres fois, ils sont un peu plus gênants, ponctués de « wesh » et de « gros ».
Wesh, gros.
Et parfois, ils partent complètement en cacahuète et deviennent des pamphlets qui dénoncent la décadence de la France. Alors nous aussi, on a décidé de se pencher sur la question. Pour ça, on a discuté avec Médéric Gasquet-Cyrus, un chercheur et maître de conférences en sociolinguistique qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tous ces articles ?
En fait, c'est souvent fait pour s'amuser, pour montrer que c'est exotique, pour montrer que c'est rigolo, qu'on n'y comprend rien. Et en fait, c'est souvent un truc un peu, je dirais, de boomer, c'est-à-dire, on ne comprend pas les jeunes. Et regardez ce qu'ils emploient, avec un mélange un peu d'un côté de fascination, d'admiration. Ouais, c'est génial, c'est créatif, mais quand même, ce n'est pas du bon français. C'est un peu cette ambiguïté qui est là tout le temps. Si on remonte dans le temps, les premiers articles sur le sujet, en français, c'est les années 80. Alors, les années 80, c'est intéressant parce que c'est le moment où on se rend compte, notamment en France, qu'il y a une jeunesse, alors on est après 68, tout ça, mais qui est vraiment une classe à part entière, qui est maintenant une classe commerciale, je dirais, c'est les clients. Voilà, c'est des gens qui ont le pouvoir d'achat, de ça, etc. Et il y a des premiers articles sur le sujet, en gros, parlez-vous, le parler ado, comprenez-vous vos ados, tout ça, voilà. Mais c'est toujours ce côté, les parents qui ne comprennent pas les jeunes. Et c'est fait de manière super cliché. Alors c'est le début du parler chébran, voilà, le verlan, tout ça, et avec plein déjà de un peu de conneries, d'exagération.
Les yeuves ont du mal à capter le langage un peu chelou et zarbi des tessis. C'est le thème de notre page spéciale, ce langage un peu particulier que vous connaissez peut-être pas très bien. Alors je vais répéter, les yeuves ont du mal à capter le langage chelou et zarbi des tessis. Et je traduis, les parents ont du mal à comprendre le langage un peu bizarre des cités.
Après, se greffe tout de suite là-dessus. Alors ça c'est un peu, on va dire, générationnel. Après, se greffe dessus, années 80-90, le côté immigration, banlieue, cité, le parler des quartiers, le parler des cités, avec là aussi toute une série d'approximations. On ajoute à ça le rap, ils parlent comme dans le rap, voilà. Donc on fait une sorte de kouibouga, de mayonnaise, d'aïoli, etc. De trucs un peu pas très très clairs. Et encore une fois, c'est pour dire, voilà, les jeunes ne parlent pas comme nous, sauf que rien n'est défini. Qu'est-ce que ça veut dire les jeunes? C'est quoi se parler? Ça vient de quoi?
Comme le dit Bourdieu.
Ah, encore Bourdieu.
Jeunesse n'est qu'un mot.
Non mais sérieux.
Impossible de mettre tous les jeunes dans le même panier. Car le jeune, selon qu'il vienne d'une banlieue, d'une province, d'un quartier chic, selon qu'il ait fait des études ou pas, selon ses influences et selon ses moyens, parlera d'une manière ou d'une autre. Bref, il y a autant de parler jeune que de jeune. La notion même de parler jeune implique plusieurs choses. La première, c'est qu'à un moment donné, avec l'âge, on arrête de parler comme un jeune.
Franchement, c'est dans la tête.
S'il y a un parler jeune, ça suggérerait que, en vieillissant,
ouais,
on parle autrement.
Oui. Alors ça, c'est un point très difficile, mais qui est un point clé. C'est-à-dire que, d'abord, où est-ce que ça commence ? Est-ce que le parler jeune, c'est les parler de certains minots de 8 ans, mais qui fréquentent des ados ? 10 ans, 12 ans, ça commence quand ? Est-ce que c'est l'adolescence ? Mais l'adolescence, on sait que là aussi, c'est très fluctuant, parce qu'à 18 ans, on a une majorité administrative, mais parfois, c'est pas une maturité, c'est pas une maturité sociale parfois, parce qu'il y a des gens qui vont rester dans un milieu de type de groupe adolescent, jusqu'à 20, 24, 30, 32 ans. Voilà, je dis ça au hasard. Donc, la sociabilité adolescente, telle qu'elle se pratique notamment dans les quartiers populaires, elle peut aller jusqu'à très loin dans le temps. Alors, ce qui se passe, c'est que on arrête d'être jeune, entre guillemets, quand on ne va plus avoir les mêmes habitudes de vie. Alors, c'est toute une série de trucs. Hein. C'est la façon de s'habiller, c'est les fréquentations, c'est la densité des réseaux. Alors qu'est-ce qui se passe souvent? C'est les études qui font splitter un groupe, qui font éclater un groupe, c'est le travail, et alors autrefois le mariage, maintenant on va dire plutôt la mise en couple, qui fait que des jeunes vont quitter leur groupe, qui va être le groupe du quartier, de la cité, voilà, ou du village, et entrer dans d'autres réseaux. Ces réseaux, ça va être ceux du travail, ceux de la famille, de la belle famille, ceux d'une autre ville, etc. à partir de là, ils ne vont plus développer le même langage commun, ou en tout cas les mêmes codes qui sont partagés par tout le monde. Ils vont en prendre d'autres et oublier peut-être les anciens, et plus créer en gros cette complicité, ces réseaux, etc. Et donc, voilà, quand un jeune va quitter ce réseau de sociabilité, bah, on va considérer alors qu'il ne parle plus par les jeunes. Mais ce qui est absolument, comment dire, à nuancer, parce que c'est pas parce qu'on quitte un groupe qu'on ne va pas dire tarpin. Et ce mot « jeune », entre guillemets, tarpin, est dit aujourd'hui par des adultes, voire des vieux adultes. Il y a perméabilité, en fait, dans les niveaux, et que ce par les jeunes, il ne faut pas le borner ni par l'âge, ni par les mots. Il n'y a pas des mots étiquetés « jeune » pour toujours.
C'est à moi que tu parles, là. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, sans c'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec.
Si l'âge ne permet pas tout à fait de définir une manière de parler jeune, alors quoi ? Parce que pour comparer quelque chose, il faut bien un point de comparaison. Et à ce sujet, un très bon exemple a été entendu dans le podcast « Parler comme jamais », animé par Laëlia Véron, et qu'on vous recommande chaudement d'écouter. On y apprend que la chercheuse Marie Landic a mené une enquête auprès de jeunes normaliens parisiens pour étudier la prononciation du français de référence, c'est-à-dire du français neutre. Et elle a fait chou blanc. Malgré des milieux et des influences très similaires, la manière de parler différait trop d'un étudiant à l'autre pour pouvoir établir une norme.
Pour définir un parler particulier, imaginons des jeunes, il faudrait déjà qu'on puisse définir un parler de référence,
ouais.
Sur lequel s'appuyer.
Alors, excellente question. Parce que justement, souvent, ce qui a été fait, c'est de comparer le parler jeune au soi-disant français normal, à la norme, mais sauf que la norme, ça n'existe pas. C'est aussi une création fantasmée un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle la norme, ça a évolué au fil du temps et ça évolue sans arrêt. Lorsque la langue française émerge, la norme, c'est la langue de la cour. C'est la façon de parler de l'élite de l'aristocratie qui eux-mêmes parlent comme les meilleurs écrivains patentés par le roi, etc. Donc c'est l'élite au carré, quoi. Donc ça, c'est le premier modèle, on va dire, qui va se développer avec notamment l'Académie française qui va un peu imposer cette idée d'un parler littéraire. Aujourd'hui, c'est la norme de référence, le parler de référence, c'est plutôt le parler, alors, toujours parisien, mais je mets des guillemets, parce que c'est pas les gens de Paris, c'est les gens qui sont parisiens de par leur métier ou de par leur position sociale, on va dire, parce que Paris concentre beaucoup de choses. Mais il y a un mimétisme, cette façon de parler, qui est telle que dans les écoles de journalisme, on reproduit ça, et que les jeunes, parfois, reproduisent ça, mais c'est pas imposé par la loi. Là, c'est une imitation, c'est un mimétisme. Donc déjà, on a du mal, effectivement, à savoir ce que c'est que ce parler de référence. Et les parler jeunes sont juste un aspect de la langue française, mais pas un aspect exotique, pas un aspect marginal. Donc c'est une façon de parler normale, qui existe, qui n'est pas condamnée, qui n'est pas glorifiée non plus, qui existe, et qu'on décrit telle qu'elle, mais en s'appuyant sur les travaux qui existent déjà. Ils n'ont pas dit « Oh, regardez, c'est extraordinaire, ils emploient du verlan. Ouais, ils emploient des emprunts arabes. » Mais non, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est juste que là, ça se fait encore une fois de manière un peu plus fréquente.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Différence de point de vue entre linguistes, opposition entre puristes de la langue et modernes, le parler jeune déchaîne les passions. Ça peut s'expliquer par différents facteurs. Déjà, par la tentation de faire s'opposer les générations. À ce propos, on vous invite à écouter notre précédent podcast qui s'appelle « Le clash des générations aura-t-il lieu ?»
Là, ouais.
Oui, on fait de l'autopromo.
Bah ouais.
Ouais, autopromo. Ensuite, parce que stigmatiser les jeunes, préférablement de banlieue, par tous les moyens, semble être devenu un sport national.
Franchement, c'est trop le seum, frère.
Et enfin, sur une note beaucoup plus réjouissante, parce que la créativité du parler jeune est intéressante.
Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté.
Bien sûr.
Solide dans la bulle, sur le prado, shifter pro. Contresens, ma chérie, t'as contresens. Putain, où t'étais quand je mettais des 5 euros d'essence. Je veux nous faire la guerre, par Dieu CB. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la KEO. C'est Marseille bébé, ça m'est rassé dédé.
Les jeunes se donnent plus de liberté, parce que justement ils sont dans une façon de parler qui est affranchie de règles, de normes. À la fois parce que c'est l'âge, en tout cas c'est le moment où on conteste, on renverse les barrières, les normes, etc. pour se faire sa place. et parce que bah, c'est plus cool aussi que le parler académique ou journalistique ou des parents, etc. Donc on va employer sans problème plus de mots, alors, entre guillemets étrangers ou anglais ou inventés, etc. Donc il y a plus de liberté de créativité et il y a pas trop, les jeunes se reprennent pas trop, enfin, on n'est pas dans un cadre normatif, on va dire tu parles pas bien, etc. Ça arrive. En gros, tout le monde va accepter plus ou moins dans un groupe cette façon assez large d'utiliser des choses. Donc, encore une fois, il n'y a rien de neuf. Des emprunts à l'arabe, bah, il y en a en français depuis le Moyen-Âge. Alcool, abricot, alcali, etc. Mais là, ça va être des emprunts sur des choses qui vont être plus familières et qui vont être peut-être plus fréquents que la moyenne. C'est ça. Après, on va trouver beaucoup de français populaire. Alors, qu'est-ce que le français populaire ? C'est le français que la plupart des gens parlent. Et on va le trouver bah, massivement chez les jeunes parce qu'effectivement, ils sont dans un mode de parler cool, chill, relax, etc. On se prend pas la tête, on ne contrôle pas. Donc, on se permet ça. On ne se surveille pas. Et on n'a aucune raison de se surveiller, en fait.
Laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles.
Même en nous réfrénant d'utiliser des mots de jeunes, notre langage courant est fatalement le reflet de notre époque. Après tout, devons-nous forcément utiliser un langage soutenu afin de parler le langage correct ? S'il y a bien une idée tenace, c'est que les jeunes dénaturent la langue.
Il y a toujours un fond un peu de mépris, de dédain, de moquerie, parce que souvent on dit, ouais, en gros, ils parlent comme ça, donc ils n'ont que ça. Mais non, c'est qu'ils ont ces mots en plus d'autres. Et que la plupart savent très bien que le wesh, on n'utilise pas dans tel ou tel contexte. Et que c'est plus... En fait, maintenant, on parle en termes de répertoire. On va dire qu'on a tous un répertoire. C'est-à-dire on a une palette de mots, d'expressions, dans notre langue et dans notre langue, qui nous permettent d'exprimer du sens. Donc là, j'utilise un certain registre, j'utilise un certain mot. Mais avec d'autres personnes, je vais en utiliser d'autres. Si je parle à d'autres personnes, j'utiliserai une autre langue ou ce que je sais d'une autre langue pour me débrouiller. Donc on a un répertoire comme ça. Ce qu'on manque souvent, c'est que ça répond à des fonctions. C'est que les parler jeune, c'est pas juste des mots justement pour faire jeune, c'est pas juste des mots qui pètent jeune comme ça, qui sonnent jeune, c'est des mots qui sont utilisés de manière tout à fait normale, avec des fonctions discursives, conversationnelles, etc. Ça fonctionne, ça fait fonctionner le langage. Donc ouais, si on dit genre, si on dit wesh, c'est pas juste un mot pour faire jeune, c'est que ça a une fonction particulière. Et ces articles-là se focalisent souvent sur les mots, sur le lexique, en oubliant que c'est pas que ça, c'est aussi la syntaxe, l'ordre des mots, ou la conjugaison, la grammaire, c'est aussi la prosodie, l'intonation, mais en se focalisant sur les mots, on exotise vraiment le truc, quoi. On réduit ça à une poignée de termes difficilement traduisibles.
Il faut bien utiliser des mots pour s'exprimer, et en inventer lorsque ceux-ci viennent à manquer. Ça peut être pour nommer une époque ou des événements nouveaux. On l'a bien vu avec le vocabulaire né de la pandémie.
Vaccinodroit, Covid, Corona, Raoul, distanciation sociale, pas sanitaire, comorbidité, déconfinement, reconfinement, cluster, couvre-feu, pandémie, antigénique, variant, ARN messager.
Mais ça ne se limite pas à ça. Inventer des mots permet aussi de traduire des idées, de perfectionner son style, de marquer son appartenance à un groupe, ou justement de s'en démarquer. On construit finalement notre petite palette.
Ce bouillonnement permanent, il génère des formes, des sens qui vont parfois rester, parfois ne pas rester, être éphémères, mais c'est pas du tout ni de l'appauvrissement, ni de l'enrichissement. Ça donne une palette plus large, et en fait, c'est la même fonction que la poésie. Alors quand je dis ça, je dis pas que quand on dit « wesh » ou quand on fait de la poésie, mais je dis que c'est le même principe, c'est-à-dire que les poètes ont compris, mieux que les académiciens, que la langue est faite pour être utilisé par nous et on n'a pas à s'incliner devant elle. Ça, c'est un principe très fort. On se sert de cette langue pour exprimer nos besoins. C'est la langue qui est à notre service, pas nous à son service. Ça, c'est un point de vue idéologique très, très particulier. Donc, ce que font les jeunes, mais pas que, c'est d'utiliser la langue pour leurs besoins. Leurs besoins d'expressivité, leurs besoins de rire, de communiquer, de délirer. Voilà. Après, que ce soit pas littéraire, on s'en fout. Tout n'est pas littéraire. Je veux dire, quand je vais acheter... du pain ou, enfin, je sais pas, la langue française littéraire, c'est pas la langue de Molière. Bonjour, d'une baguette pas trop cuite. Oh putain, la langue française est respectée. Bon, c'est nul. J'ai aucun intérêt. Donc voilà, le problème, c'est que le français, souvent considéré au prisme de cette vision très culturelle, très cultureuse de la langue de Molière, la langue de l'élite, la langue littéraire, Hugo, on va pas traduire Proust. Mais excusez-moi, on s'en bat les couilles de parler comme Proust. Qu'on écrive, qu'on lise des choses comme ça, c'est bien. Mais il n'y a pas que Proust. La langue française, c'est pas que ça. C'est du Marcel Pagnol, c'est du Aimé Césaire, ou c'est du Houellebecq pour certains, ou c'est des écrits des Jean-Claude Izot. Et ça va être aussi des textes beaucoup plus en argot, etc. Il y a beaucoup d'écrivains très intelligents qui ont compris que ça existait.
Nous, on est bien d'accord avec Médéric, et on vous encourage à les délier, les langues.
Ouais, ou alors les mélanger, enfin,